Ce que je vous propose ce matin et dans les mois qui viennent, Dieu voulant, c'est un retour aux fondamentaux. Un retour aux fondamentaux et notamment à ce que nous estimons être la définition de la vie chrétienne ou, si vous préférez, du statut de disciple de Christ. Cette formule « être disciple de Christ », être son adepte, être chrétien. Cette formule est utilisée couramment. Il n'est pas sûr que nous sachions toujours très exactement ce qu'elle recouvre. Et ce que je souhaite donc, c'est reprendre avec vous cette formule et de vous proposer quelques pistes de réflexion qui devraient, si vous acceptez bien sûr de les emprunter avec moi, nous permettre de mieux cerner ce que recouvre la formule. Alors pour aujourd'hui, le texte qui orientera notre pensée se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Et je vous invite, si vous avez une Bible, à l'ouvrir dans cet évangile au chapitre 16. Nous lirons quelques versets seulement. Il ne serait pas inutile de lire tout le contexte, mais nous nous limiterons aux versets 21 à 27. Donc Matthieu 16, les versets 21 à 27. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Mais que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Un texte capital dans lequel je vous propose de distinguer d'abord, pour les analyser ensuite, trois éléments, un appel, un chemin et une promesse. Alors l'appel, verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple. » Trois choses retiendront notre attention touchant à cet appel, son auteur, son contenu et ses destinataires. Alors son auteur d'abord, à l'origine de l'invitation, Jésus bien sûr. Mais Jésus qui vient d'annoncer à ses disciples stupéfaits, verset 21, en substance, « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. » Une déclaration qui lui vaut d'être immédiatement repris par Pierre, lequel, nous rapporte l'évangéliste, prend Jésus à part et se met à lui faire des reproches. « Mais non, que nous racontes-tu là? Cela ne t'arrivera pas, Seigneur, je te rassure. » Preuve nouvelle que les pensées de Dieu ne sont que rarement celles des hommes. Par ces trois termes, souffrance, mort et résurrection, Jésus vient d'exprimer en raccourci tout ce qui doit arriver bientôt. Pierre, on le notera, n'a retenu que les deux premiers, souffrance et mort. C'est pourquoi il s'insurge. Comment pourrais-tu connaître pareil destin? Tu es le Messie, il n'est donc pas possible que de telles choses t'arrivent. pauvre Pierre, qui ne peut comprendre que c'est précisément parce que Jésus est le Messie qu'il faut qu'il souffre et qu'il meure. Un malentendu qui devrait nous inviter à toujours plus d'attention dès lors que la pensée de Dieu est le plus souvent aux antipodes de la nôtre. Veillons à ne pas la devancer, comme Pierre ici, mais à demeurer toujours dans une attitude d'écoute respectueuse et tranquille. Les phrases du Seigneur ne sont pas de celles que l'on peut compléter tout seul, aisément. À l'origine de cet appel, donc, Jésus. Mais Jésus, tout près de connaître les souffrances et de subir le supplice pour lesquels il est paru dans le monde. Jésus, sur le visage duquel se profile déjà l'ombre de la croix. Son contenu maintenant, le contenu de cet appel. À quoi Jésus appelle-t-il tous ceux qui l'entourent? Verset 24, si quelqu'un veut devenir mon disciple. Littéralement, si quelqu'un veut venir après moi. Ainsi, ce qu'il voudrait que les hommes qui se pressent autour de lui acceptent d'abandonner leur position présente pour prendre place derrière lui. Bien que proches géographiquement, ils sont encore loin spirituellement. D'où l'invitation qu'il leur adresse à s'approcher. Pourquoi ? Pour deux raisons au moins, me semble-t-il. Première raison, il souhaite faire de tous ses élèves, si je puis dire. Ou si vous préférez, ses disciples. Entendez par là des hommes et des femmes qui se laisseraient instruire, éduquer et former par lui, jusqu'à être capables non seulement de transmettre aux autres les richesses inépuisables de sa pensée, mais encore de reproduire devant eux les perfections de son être. Ce qu'il attend de tous ceux qu'il appelle est donc qu'ils consentent à se mettre à son école, avec cette assurance que l'instruction reçue ne réformera pas seulement leur pensée, mais transformera aussi leur vie. Deuxième raison, il souhaite faire de tous ses amis. C'est ce que semblent avoir compris les traducteurs de la Bible en français courant, qui rendent ainsi le propos de Jésus, je cite, « Si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut venir avec moi. » Leur traduction n'est pas littérale, mais elle rend bien, me semble-t-il, le projet ultime de Jésus. Faire des hommes et des femmes qui jusqu'ici cheminaient plus ou moins loin de lui, ses amis. Projet aussi incompréhensible qu'inouï, et pourtant si clairement énoncé ici encore. Si le Fils est paru dans le monde, c'est afin de réaliser pleinement la volonté du Père. Savoir non seulement sauver tous les hommes en les arrachant au péché et à la mort, mais encore les élever au rang d'amis intimes. Et pourquoi ? Pour pouvoir faire d'eux, nous dit l'Écriture, les témoins, en même temps que les cibles, à la fois de sa grâce, de sa bienveillance, de sa patience, de sa bonté, en un mot, de son amour infini. L'appel de Jésus, on le voit, vise rien de moins que ceci, la constitution d'une vaste communauté, une communauté d'amis, autant que de disciples. Les destinataires de l'appel, enfin, à qui précisément Jésus adresse-t-il son invitation ? À tous, et par conséquent, à chacun. Verset 24, « Si quelqu'un veut devenir mon disciple. » Ainsi, l'invitation nous concerne tous ce matin. « Si quelqu'un veut devenir son disciple. » Et c'est la grâce du Seigneur qui, tout d'un coup, jaillit étincelante. Grâce qui, ici et maintenant, nous invite, pitoyables pécheurs que nous sommes, à venir avec lui. C'est David qui demandait « L'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ?» Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Et moi, je dis, le Seigneur est-il amour et miséricorde au point de nous avoir choisis, nous, pour être plus que ses disciples, ses amis? La réponse de Jésus ici est oui. D'où la porte qu'il nous ouvre ce matin et l'appel tendre et pressant à la fois qu'il nous adresse. Venez, venez avec moi. Qui que vous soyez ce matin, l'invitation est pour vous, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, quel que soit le regard que vous portez sur vous-même. C'est à vous que le Seigneur murmure en cet instant, venez, venez avec moi. Et ne croyez surtout pas qu'il ignore qui vous êtes. Personne en réalité ne vous connaît mieux que lui. Son regard a depuis longtemps percé jusqu'aux secrets les mieux gardés de votre personne, de votre vie. Il vous appelle pourtant. Allez-vous attendre longtemps encore avant de répondre simplement, puisque ta grâce, incompréhensible, m'invite à m'approcher de toi, tel que je suis, tel que je suis. Eh bien, stupéfait, émerveillé et reconnaissant, Seigneur, je viens. Je viens. Un appel. Et puis, comme nous l'annoncions, un chemin. La question se pose maintenant, comment rejoint-on Christ pour être et demeurer à jamais avec lui? Autrement dit, comment devient-on son disciple, son ami? La réponse de Jésus, verset 24 toujours, est plutôt inattendue. Son intention n'est-elle pas de persuader le plus grand nombre de s'approcher de lui pour se lier à lui? Dès lors, ne doit-il pas tout faire pour faciliter son accès, si je puis dire, à ceux qui souhaitent répondre favorablement à son appel? En insistant, par exemple, aussitôt sur les nombreux avantages que tireront à coup sûr de leur adhésion à sa personne ses nouveaux adeptes. En se gardant surtout d'évoquer trop vite ce qui pourrait conduire l'un ou l'autre à hésiter, voire à rebrousser chemin. Or, Jésus fait tout le contraire. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, déclare-t-il d'emblée qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et ensuite, qu'il me suive. Alors, pourquoi cette approche? Il y a tout sauf un aspect commercial. Pourquoi cette approche? Pour, selon moi, se démarquer d'abord de tous les bonimenteurs, camelots et autres commerciaux évangéliques qui ne manqueraient pas d'apparaître par la suite et qui sont de fait apparus, prétendant tous parler en son nom, mais abusant leur clientèle en leur bradant honteusement un succès d'années d'évangile. Ça a un peu le goût de l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Pour Jésus, il ne peut être question de leurrer qui que ce soit, même si la cause est bonne. S'il en est donc qui souhaite répondre à son appel et devenir ainsi ses amis autant que ses disciples, ils doivent savoir exactement ce qui leur coûtera. Jésus n'a jamais été et ne sera jamais de ceux qui cachent les prix, ni d'ailleurs ceux qui les cassent. Répondre à son invitation est une démarche coûteuse, et il tient à ce que nous le sachions, ne serait-ce que pour que nous puissions nous asseoir, dit-il ailleurs, et calculer la dépense. Et nous déterminer ensuite, mais en connaissance de cause. D'où sa déclaration, une déclaration dans laquelle Jésus prend bien soin de détailler la facture, si je puis m'exprimer ainsi. Pour être avec moi, il vous faudra joindre au renoncement la mort. Deux mots, renoncement et mort, qui, pour recourir à une autre image, moins commerciale, celle-ci résume d'un coup le seul chemin qui mène à Christ, un chemin qui passe obligatoirement par le renoncement et par la mort. Par le renoncement, verset 24, « Si quelqu'un veut devenir mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. » Alors vous allez me dire, mais c'est déjà fait. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Vous vous en souvenez pas ? C'était le deuxième cantique. C'est déjà fait, oui, peut-être. Avec les lèvres, certainement. En tout cas, voilà qui mérite d'être clair. Pour rejoindre Jésus, il est indispensable que nous renoncions à nous-mêmes. C'est-à-dire, quelques réflexions très brèves sur le renoncement qu'exige de nous Jésus. Deux mots ici encore me paraissent propres à en résumer la nature véritable, détachement et abdication. Détachement. En nous, nous appelant comme il le fait à renoncer à nous-mêmes, Jésus, je le crois profondément, nous invite d'abord à nous détacher. Nous détacher de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être et de faire ce qu'il attend de nous. Des preuves ? Rappelez-vous, que dit-il à celui qui risque d'être distrait de Dieu par les choses de ce monde comme il les appelle ? Matthieu 19, 21, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et à ceux que leurs parents, leurs conjoints ou leurs proches pourraient bien détourner de lui-même et de son service, Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et nous pourrons citer d'autres exemples. Pour Jésus, donc, il est clair que le chemin qui mène à lui passe nécessairement par un détachement de tout ce qui nous empêche ou pourrait nous empêcher à terme de chercher toujours d'abord ce qu'il plairait au Seigneur que nous pensions, disions ou fassions. Ah, si nous pouvions décider tous ce matin de ne plus rien laisser accaparer notre esprit plus que Dieu. Nous nous serions alors suffisamment détachés, désattachés, pour nous approcher enfin de Jésus et prendre notre place parmi ses amis. Détachement. Et puis, abdication. Car en nous appelant, comme il le fait ici, à renoncer à nous-mêmes, Christ ne nous invite pas seulement à nous détacher d'un certain nombre de choses et même d'être, il nous invite en même temps à abdiquer. C'est-à-dire, concrètement et simplement, à lui abandonner l'autorité sur notre vie. Nous avons disposé d'elle comme bon nous semblait, c'était notre vie. Aujourd'hui, nous la lui remettons pour qu'il en soit lui le maître désormais. Non plus ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Initiative douloureuse, mais indispensable, qui distingue à la fois le disciple du rebelle et le disciple véritable du pseudo-disciple. Pour l'ami de Jésus, une question essentielle encore et toujours. Maître, que veux-tu que je sois en ce jour, dimanche 3 août 2014 ? Et quelles œuvres belles attends-tu de moi tout à l'heure, cet après-midi, ce soir et au-delà ? Parce qu'il est clair pour lui que sa vie ne peut plus être la simple réalisation de ses plans, ses ambitions, ses désirs, mais bien plutôt celle du plan de Dieu, avec les moyens qu'il lui donne, de la façon qu'il lui montre et au moment qu'il lui indique. Qu'en est-il de nous ce matin ? Parlant d'un couple, il nous arrive de poser un peu vulgairement la question « Qui des deux porte la culotte ?» Permettez que je nous pose la question. Dans le ménage, si je puis dire, que nous formons avec le Seigneur, lequel des deux a le plus souvent, sinon toujours, le dernier mot? Lequel des deux? Si quelqu'un veut devenir mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et puis il ajoute, verset 24, toujours, qu'il se charge de sa croix. Autrement dit, le chemin qui mène à lui est aussi un chemin qui passe par la mort. Difficile en effet de ne pas voir dans la croix évoquée ici par le Seigneur le symbole de la mort. Non pas d'une certaine souffrance seulement, comme bon nombre de chrétiens le croient encore, c'est ma croix, c'est ta croix, qui voit dans l'invitation de Jésus soit un appel à supporter patiemment la souffrance ou la solitude en général, soit une exhortation à assumer courageusement telle contrariété ou adversité en particulier. La question reste cependant de savoir de quelle mort il est question ici. D'aucuns ont vu dans cette mort le martyr auquel il fallait acquiescer par avance afin d'être admis dans la communion et l'intimité de Christ. Mais est-ce bien de cette mort à cause de lui que Christ parle ici? Permettez-moi d'en douter, ne serait-ce qu'en raison de la précision capitale à mes yeux rapportée par Luc, qui rend ainsi le propos de Jésus. Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte chaque jour, » une version qui me semble très bien attestée, « qu'il porte chaque jour sa croix. » Il apparaît ainsi que le sacrifice auquel nous devons nous résoudre pour être reçus en amis par le Seigneur n'est pas unique, mais répété, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors revenons à notre question initiale. Quelle est cette mort à laquelle nous devons consentir si nous voulons être admis dans la communion de Christ? Je suggère ici qu'il s'agit en réalité de l'exécution, si je puis me permettre ce terme, de ce que le Nouveau Testament appelle à plusieurs reprises notre vieille nature. Ou si vous préférez, la liquidation d'une ancienne manière de vivre. Paraphrasant l'apôtre Paul, je dirais que pour être assuré d'appartenir à Christ, il est indispensable que nous ayons accepté de faire mourir notre vieille nature avec ses passions et ses désirs. Là où le péché s'est multiplié, écrit l'apôtre Paul, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Que dirons-nous donc? Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Sachons bien ici ce qu'il en est. L'homme, et je cite toujours l'apôtre Paul, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché ne doit donc plus régner sur notre corps mortel. Mais nous faire obéir au désir de ce corps, pour nous faire obéir au désir de ce corps. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. Vous, vous conduisiez ainsi autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez plus les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses mauvaises habitudes. C'est donc cette sorte de liquidation de notre ancienne façon de raisonner, d'agir, de nous comporter, que nous sommes appelés ce matin encore. Nous qui souhaitons ardemment rejoindre Christ pour que là où il est, nous soyons aussi. Une liquidation qui, soit dit en passant, exigera de nous que nous fassions nôtre, que nous fassions montre d'une volonté de faire et d'un immense courage et d'une très grande persévérance. Selon Jésus, en effet, C'est chaque jour qu'il nous faudra nous employer à nouveau à juguler cette vieille nature, jusqu'à ce que l'Esprit dirige, lui dirige enfin notre conduite et nous renouvelle à cette image parfaite de Dieu qu'il nous a été donné de découvrir en la personne de son Fils Jésus-Christ. Alors l'homme que nous étions auparavant, ayant été mis à mort, paraîtra l'homme nouveau, celui en qui l'Esprit Saint produit chaque jour davantage d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Le moment est venu de nous examiner une nouvelle fois nous-mêmes. À quoi ressemblons-nous le plus ce matin ? À ce que nous avons toujours été, à l'homme ou la femme d'hier, donc ? Ou à ce que nous serons, l'homme nouveau ? Cet homme dont Christ est à jamais le parfait exemple et que son Esprit nous offre de créer patiemment en nous. Puisse chacun ici accorder assez de prix à l'amitié de Jésus pour accepter de rompre sans autre avec son ancienne manière de vivre et décider de se conduire désormais comme lui, le Seigneur, le veut. Un chemin, et je terminerai par une promesse. Conscient de l'émoi dans lequel ses propos ont mis les disciples, Jésus tient à les encourager aussitôt. Le sacrifice de leur vie, s'ils y consentent, ne restera pas sans récompense. Si je vous demande de m'abandonner votre vie, leur dit-il en substance, c'est pour vous en rendre une bien plus belle, la vie éternelle. Et Jésus de situer alors son discours dans la perspective de son avènement et du jugement qui l'accompagnera. Verset 27, « Le Fils de l'homme, annonce-t-il, va venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Pourquoi cette référence ? Parce que toutes les décisions ici et maintenant des hommes devraient être prises, toutes nos décisions ici et maintenant devraient être prises à la lumière de ce formidable événement. Christ est sur le point de paraître, glorieusement cette fois, pour rendre à chacun selon les choix qu'il aura faits, et notamment selon les sacrifices qu'il aura consentis. Et il faut que tous sachent qu'en ce jour, ceux qui seront restés frileusement accrochés à leur ancienne manière de vivre, ceux-là seront à jamais privés de la vie véritable. Tandis que ceux qui, par amour pour Christ, lui auront abandonné leur vie, ceux-là la retrouveront comme enrichie à l'infini. Pour avoir accepté de se laisser détacher de tout ce qui risquait de les retenir, de suivre le Seigneur, pour avoir consenti à remettre leur existence entre ses mains, afin qu'il la dirige, lui, selon sa parfaite volonté, pour s'être appliqué enfin, avec l'aide de Dieu, à neutraliser le pécheur en eux, afin que s'exprime plutôt l'homme nouveau. Eux hériteront la vie éternelle. Or, existe-t-il un bien plus précieux que celui-là, la vie, la vraie? C'est la question que pose Jésus au verset 26. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Et si la vie est le bien suprême, est-il bien raisonnable de refuser d'en payer le prix? Rares sont les personnes qui aiment souffrir, mais lorsque c'est pour trouver la vie, et la vie dans sa plénitude, lorsque rien de moins que la gloire est au bout du chemin. Pour Paul, le calcul est vite fait. J'estime, écrit-il aux chrétiens de Rome, que ce que nous souffrons dans le temps présent pour Christ, pour pouvoir être appelés ses disciples, ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. C'est pourquoi, écrit-il, nous ne perdons pas courage. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Car nous portons notre attention, toute notre attention, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure pour toujours. Qu'en est-il de notre propre évaluation? Avons-nous compris qu'il n'est pas de profit sans perte, et surtout qu'il est des profits qui valent largement toutes les pertes. Si quelqu'un ici, dit Jésus, veut devenir mon disciple et mon ami pour hériter avec moi la vie éternelle, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour à nouveau de sa croix et qu'ensuite il me suive. Et ce qu'il gagnera avec moi lui fera oublier bien vite tout ce qu'il aura perdu à cause de moi. Amen.